Voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui, hein, comme nous l'avions déjà évoqué. Il s'agit d'examiner ensemble certaines caractéristiques de votre démarche en pédagogie de la santé. Alors, votre parcours a été particulièrement riche. Votre expérience s'est forgée sur des terrains géographiquement et socialement variés. Alors, est-ce que vous pourriez nous citer les principales étapes de votre parcours, ainsi que les questionnements et les voies que vous avez explorées lors de ces étapes?
C'est un parcours assez, en tout cas, original dans le champ de la médecine et puis même dans le champ de la santé publique. Mais en effet, ce parcours s'ancre au départ dans une perspective de santé publique et de promotion de la santé, dans le sens où je pense que mes préoccupations à la question de la pédagogie sont d'abord venues par un questionnement sur... tout ce qui est plus du champ de la planification, de l'ingénierie, du développement des curriculums, et donc de réfléchir les pratiques, je dirais, on va s'arrêter là, je suis vraiment... on peut redémarrer?
Oui, non, 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 mais
J'ai
c'est
vraiment complètement...
de toute façon, c'est vous m'amenez déjà à ma deuxième question, en fait, qui souligne que vous avez été rapidement amené à envisager, à construire, à mettre en œuvre une véritable stratégie de professionnalisation dans les organisations de santé. Et
De l'enregistrement néanmoins.
Oui, comme vous l'aviez dit, donc la cible, c'est donc les systèmes de santé avec l'ensemble de leurs acteurs. Hein, c'est
Oui, tout à fait. Donc
tout.
en effet, bon, mais donc je vais essayer de poursuivre en effet. Mais bon, je suis tellement là pour l'instant, je suis vraiment sur le champ spécifique des émotions et tout ça. Du coup, je vais repartir dans le champ de la santé publique. Donc en effet, complètement, vous avez tout à fait raison. C'est la voie d'abord de la question pédagogique. Du coup, même au départ, j'avais du mal à nommer ce champ d'expertise pédagogie médicale, puisque je l'ai nommé dans le décours de mes travaux de recherche et de thèse, notamment avec le champ de la sociologie des organisations et avec le monde de l'éducation. J'ai finalement nommé ce champ de développement ingénierie de la professionnalisation dans les organisations de santé. Et le lien à la question pédagogique était un élément de la réflexion globale, était certainement aussi une des finalités. Mais il y avait d'abord à réfléchir en amont à la pertinence vraiment de ce qu'on mettait dans ces curriculums,
C'est ça.
avant même de penser aux méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Enfin, avant même est un peu compliqué parce que c'est aussi une finalité puisque dans les méthodes se trouve aussi la perspective
D'accord.
émancipatrice vers laquelle je cheminais par ailleurs. Et là, le lien va se faire avec le champ de la promotion de la santé, d'où l'importance pour moi de pas seulement parler de santé publique, mais de promotion de la santé comme étant réellement le cadre le plus global et intégrateur de ma perspective pédagogique.
En effet, j'ai perçu votre démarche globale comme en fait une démarche d'architecte, hein, en fait, qui souhaite construire un édifice et qui est en lien, effectivement, avec une véritable démarche d'ingénierie. C'est bien cela.
Tout à fait.
Voilà.
Et d'ailleurs, même dans le moment de ma thèse et dans le champ, je dirais plus même de la santé publique et de la recherche, ou bien dans le travail de thèse, ça pouvait provoquer certaines susceptibilités de parler d'ingénierie comme étant un champ qui n'appartient pas au champ de la recherche académique, mais plutôt du monde opérationnel, de l'intervention, etc.
D'accord.
Parce que justement, pour moi, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir penser les méthodes, mais vraiment les penser, et de pouvoir, à travers les méthodes, arriver à intégrer toute une série de connaissances et de savoirs scientifiques, et de faire fait, là, il y a une véritable architecture, comme vous dites, et un processus réellement d'intégration.
Voilà. Et c'est pour ça que vous avez parlé d'IPOS, hein, si j'ai bien noté, ingénierie de la professionnalisation dans les organisations de la santé. C'est bien cela.
Voilà, exactement. Mmh. Comme je le soulignais tout à l'heure, je suis finalement arrivée à nommer ce champ de développement de cette façon-là. Et c'est là, en fait, qu'il y a eu toute cette articulation entre un travail d'analyse de la pertinence de ce qu'on met dans les curriculums par compétence, mais finalement pour tout curriculum, donc tout ce qui touche à l'analyse des besoins de formation qui doit être articulé, quand bien même séparé sur un plan d'ingénierie, de la partie pédagogique, de transposition pédagogique proprement dite, qui va concerner plus le champ de la pédagogie médicale, c'est-à-dire vraiment les dispositifs en classe, sur les terrains de stage, etc. Et donc cette articulation entre les deux dimensions participe de cette IPOS, donc cette ingénierie de la professionnalisation dans les organisations de santé. Et alors aussi, cette professionnalisation n'est pas non plus limitée directement au professionnel lui-même dans ses compétences, mais cette professionnalisation nécessite un regard sur les systèmes et les organisations de santé et les environnements et les contextes toujours particuliers dans lesquels ces professionnels œuvrent.
Tout à fait.
Une véritable perspective de santé publique, alors pour le coup, qui à ce moment-là peut dépasser quelque part le champ de la promotion de la santé. Enfin, on est vraiment en interaction entre les deux. Mais là, il y a une véritable perspective de santé publique qui doit pouvoir s'affirmer par rapport aux besoins des populations, des patients.
Voilà. Et on ne peut évidemment envisager un bon fonctionnement de ce dispositif si chaque acteur est capable de remplir ses fonctions, de trouver sa juste place, tout en gagnant évidemment en compétences et du coup en un sentiment d'efficacité personnelle et d'autonomie, parce que c'est ça la finalité. Hein.
Oui, tout à fait, il y a cette autonomie, mais qui est, là, il y a une perspective critique relative à l'autonomie et qu'on développe plus dans les ouvrages et que je travaille encore beaucoup, notamment avec le groupe de recherche sur les types de curriculums en santé qui est maintenant mis en œuvre. Sur la question donc au niveau épistémologie de cette question de l'autonomie qui n'est pas une autonomie auto-engendrée, autosuffisante, qui n'est pas dans un contrôle radical. Il y a là un questionnement épistémologique et ontologique fondamental que je ne vais peut-être pas aborder tellement plus maintenant. Mais par contre, vous soulignez l'importance de la reconnaissance évidemment de chacun dans ses fonctions et ses rôles et du coup aussi des limites des rôles et des fonctions de chacun au regard des autres éléments du système et des autres professionnels du système. Et là, ce qui est fondamental pour ma part, c'est d'intégrer le champ de la psychologie sociale.
Justement. Et c'est précisément, en fait, moi j'ai une question, de quelle nature devraient être ces compétences disciplinaires, bien évidemment, sociales, nous venons d'en parler, émotionnelles. Et donc pour vous, ça forme la difficulté en fait réside dans le fait de faire fonctionner tout ce système de manière cohérente et compte tenu des évolutions sociétales que nous connaissons. C'est bien cela.
Tout à fait. Du coup, là, il n'y a pas seulement un travail d'architecture systémique par rapport aux organisations de santé et aux systèmes de santé, mais aussi par rapport au, je dirais, l'habitus interne de chaque personne, c'est-à-dire nos ressources, nos capacités ou facultés ou aptitudes internes qui doivent pouvoir être développées dans un sort de rapport de proportionnalité, un peu comme l'homme de Vitruve, vraiment pouvoir envisager non seulement de développer les capacités du champ cognitif, du champ métacognitif, etc., mais également tout le champ relationnel, social, interculturel. Et là, on a vraiment besoin de s'intéresser au champ de la psychologie des émotions, qui d'ailleurs, au niveau des facultés, s'intègre dans le champ de la psychologie sociale et interculturelle de plus en plus, et de pouvoir aborder les recherches et les connaissances qui touchent justement aux constructions des relations interpersonnelles et intergroupes surtout, et identitaires, où là, on est profondément déterminé sur un plan civilisationnel à très long terme, et puis culturellement et dans chacun des contextes par ces identités de groupe qui nous emprisonnent dans des déterminismes extrêmement difficiles à aborder sans travailler le champ des émotions. Il est très difficile d'aborder les rapports de pouvoir qui construisent culturellement nos structures et nos systèmes de santé sans l'aborder par un travail autour des émotions. De la même façon, si on veut travailler les questions d'éthique qui touchent aux valeurs, on a besoin aussi là de faire appel au champ de la psychologie des émotions et donc ce qu'on peut nommer la notion d'intelligence émotionnelle ou de compétence émotionnelle qui elle-même, cette notion-là, évidemment, est au cœur de beaucoup de débats et nécessite d'être clarifiée autant sur le plan terminologique que conceptuel, que de nouveau épistémologique et ontologique, ce sur quoi aussi on est en train de travailler, et notamment moi-même avec une collègue qui s'appelle Isabelle François, sur justement spécifiquement cette façon de travailler les compétences émotionnelles en clarifiant nos présupposés théoriques qu'on choisit, nous, d'aborder et la manière dont on peut les travailler dans des dispositifs pédagogiques très concrètement.
Oui, parce que je pense que l'enseignement de la psychologie sociale, qui est évidemment indispensable, ne s'improvise pas et nécessite vraiment la réflexion que vous venez de décrire en amont. Donc, effectivement, il faut, je pense, d'après ce que j'ai compris, que de définir des composantes. Ça doit faire l'objet d'une certaine flexibilité quand même. Voilà.
Oui, vous voulez dire par rapport à composantes, enfin de...
De cet enseignement, justement. Ça doit vraiment dépendre du terrain du public auquel on a affaire.
Pour pouvoir aborder ces thèmes-là et ces sujets-là, c'est ça que vous voulez dire par rapport à l'enseignement même, en formation, vous voulez dire ?
Oui, tout à fait.
Et c'est là justement en effet qu'il y a une problématique évidemment majeure, c'est la question de la formation des formateurs, des superviseurs de stage.
Absolument.
Donc là, évidemment, on touche directement les compétences du système de formation et des enseignants. Et évidemment, là, les enjeux de pouvoir, on est de nouveau rattrapé par les approches disciplinaires qui sont évidemment structurées en fonction des domaines de recherche. Et donc, il est évidemment là nécessaire de vraiment penser tout à fait autrement. Il y a une nécessité d'une forme de rupture paradigmatique qui doit se jouer par rapport à la formation des enseignants et des formateurs, notamment la question évidemment de développer un travail en interprofessionnalité et en interdisciplinarité, mais évidemment on se mord la queue puisqu'on revient sur la question là des enjeux de pouvoir et de la nécessité du coup de développer des compétences émotionnelles.
Bien entendu. Est-ce que vous connaissez Team Steps, qui est un outil un outil qui structure un travail d'équipe en étant fondé sur les compétences éprouvées de chacun. Donc c'est un outil que j'ai découvert qui parle notamment du leadership, de l'importance du leadership. Est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous avez déjà des éléments peut-être à nous fournir sur la question du leadership dans votre dispositif?
Alors, justement, par rapport au leadership, j'ai notamment dans le premier ouvrage qui était rédigé donc, aux éditions de Book sur penser la formation des professionnels de la santé.
Précisément, oui.
Là, justement, écrire un chapitre sur la question du leadership et les différentes formes de leadership. Et de nouveau, en effet, la question se pose aussi en termes de leadership émotionnel versus l'éthique, qui est un leadership justement qui va émerger des situations, qui est interactionnel et qui n'est pas basé sur des modèles de leadership charismatique, classique, sur lesquels parfois on est toujours confronté, en fait, notamment dans certaines structures de santé, hôpitaux, etc. Alors que justement, il y a vraiment tout à fait d'autres théories, toujours en provenance du champ de la psychologie sociale, du leadership, qui sont beaucoup plus d'ailleurs en phase avec les connaissances actuelles qui sont en train d'émerger par évidemment les évolutions des neurosciences et des sciences affectives aujourd'hui. Donc là, en effet, je pourrais référer à ce chapitre coécrit d'ailleurs avec le professeur Assad Azi, qui est responsable du master en psychologie sociale et interculturelle à l'ULP. Et là, en effet, je pense qu'il y a vraiment à intégrer tout ce champ disciplinaire, je le redis, à la formation des formateurs dans le champ de la médecine et des formations des soignants, mais également directement en termes de compétences pour les futurs professionnels de la santé.
Alors, j'ai également une autre interrogation au sujet du rôle du patient. On en parle de plus en plus à droite et à gauche. Alors, pensez-vous qu'on puisse faire du patient un allié, une clé de voûte de ce système ?
Certainement, parce qu'en fait, justement, dans ma perspective, je reprends celle de départ qui m'a guidée vers ce chemin pédagogique. À l'origine, donc, la promotion de la santé, dans laquelle j'étais vraiment proche que la santé publique, qui est donc plus qui est moins portée justement sur la question centrale de l'autonomie du patient et de la question de l'émancipation du patient, qui est vraiment au cœur de la promotion de la santé. Donc notamment la notion, par exemple, d'empowerment, de capacitation, qu'on retrouve chez des auteurs comme Dewey, sont au fondement de la promotion de la santé. Et pour avoir beaucoup travaillé dans le champ de la planification en promotion de la santé, notamment la planification est établie dans le champ de la promotion de la santé avec directement les actants, les acteurs des terrains, des structures de terrain, ou avec les patients eux-mêmes, les groupes de patients, les communautés. Et donc c'est la même perspective qui pour moi devrait prévaloir dans la visée en fait de tout le processus pédagogique. Et ça démarre avec le type de relation qui se construit entre l'enseignant et l'enseigné. Si on est vraiment dans une perspective émancipatrice de l'enseigné, eh ben, on pourra petit à petit modéliser une vraie perspective émancipatrice entre cet enseigné futur professionnel de la santé et son patient. Un processus de modèle de rôle, mais sur un niveau beaucoup plus large, beaucoup plus structurel, pourra petit à petit se mettre en place pour qu'il y ait une masse critique de personnes qui puissent réellement avoir une perspective émancipatrice pour leurs patients et sortir d'un modèle paternaliste ou en dehors du modèle paternaliste, d'une difficulté à réellement développer une perspective d'émancipation et d'autonomie de co-construction de la relation avec le patient. Pas pour autant, c'est pas l'idée de laisser le patient de nouveau dans une autonomie autarcique, etc. Et seul, au contraire, dans une vraie émancipation en considérant réellement la nécessité d'avoir des compétences permettant ce processus d'accompagnement, etc. Mais donc, il y a pour moi un isomorphisme entre le modèle de rôle enseignant-enseigné et le futur professionnel de la santé et son patient. Donc on est vraiment dans des mêmes mécanismes de développement de la capacité de viser une réelle émancipation pour une masse critique d'individus et donc un vrai changement sociétal à terme, ou en tout cas au moins déjà de notre système de santé, si on veut viser une vraie intégration du patient dans le respect de nouveau des reconnaissances et de savoir de tous. Là, évidemment, il y a tout le champ des savoirs expérientiels, notamment des patients, et tout le rôle qu'ils peuvent avoir, et pas seulement le patient dans le système de santé, mais aussi, je dirais, le champ des pères aidants, et au niveau aussi social, médecine sociale, l'intégration des patients au niveau sociétal. Il y a aussi des savoirs expérientiels énormes si on peut vraiment travailler avec les patients dans cette perspective-là.
Oui, mais ça répond tout à fait. Et donc, en fait, ça s'intègre tout à fait dans votre projet de psychologie sociale qui est à remettre à plat complètement. Alors, comment veiller à ce que cet édifice de santé ainsi construit soit, si je peux me permettre, entretenu, rénové au fil du temps et au gré du changement des individus et également résistant à certains choix économiques, à des évolutions technologiques? Comment faire en sorte que ce système, ce bel édifice soit... fonctionne bien et puis soit pérenne.
Alors, je dirais qu'il y a la question évidemment du développement conceptuel, théorique, méthodologique dans laquelle je peux me trouver avec d'autres et comme tout savoir. Après, la question de la mise en œuvre est une question qui va se jouer dans des contextes, des situations chaque fois particulières et pour avoir travaillé pas mal l'accompagnement pendant une dizaine d'années de nombreux projets, les développements se sont faits de façon très différente dans chacun des contextes. Et parfois, c'est un petit bout qui va être pris, qui sera plus amélioré la pertinence même du curriculum, déjà intégrer certains nouveaux terrains de stage, ouvrir les terrains de stage, ou bien à d'autres endroits, ce sera plus un changement qui va se jouer en intégrant le champ des compétences émotionnelles et de pouvoir pas... exclure un champ qui a priori était difficile à imaginer pour les enseignants. Donc c'est des petits parfois c'est des petites choses, mais et quand bien même ce serait des processus plus importants qui se mettent en œuvre, et chaque fois est en effet confronté à toute la problématique que vous avez évidemment énumérée en termes de contraintes techniques, économiques, etc., et tout le contexte,
Oui, parce que nous sommes sur un terrain, il y a des évolutions sociétales qui se font à grande vitesse.
Économique, toute la logique de la performance et tout ce qui se joue, notamment, par exemple, toutes les réformes en cours dans les hôpitaux avec notre ministre de la Santé en Belgique vont, en tout cas, depuis pas mal d'années, se confrontent complètement à des émergences de changements qui permettraient de travailler justement de façon beaucoup plus beaucoup plus respectueuse justement d'une interprofessionnalité, etc. Or, on est plutôt dans une hyper-spécialisation qui se renforce, dans une hyper-technicité qui se renforce, dans des logiques économiques avec des enjeux pervers sur les modalités de rétribution des financements.
Et également la mise en œuvre de l'intelligence artificielle qui se fait à bas bruit, mais qui est réelle. Hein.
J'ai d'ailleurs une personne avec qui je vais sans doute, en lien d'ailleurs avec Strasbourg, mais qui veut justement réfléchir à la question de la perte du métier de radiologue au regard justement de l'intelligence artificielle. Et on a un travail là de thèse de doctorat ou en tout cas de master, et puis il veut poursuivre ce travail autour de cette question-là. Et, mais qui finalement renvoie la question à la fois à la société, mais aussi au système de santé et aux enseignants et aux doyens, etc., parce que à élaborer des métiers de soignants qui sont finalement extrêmement techniques, procéduraux ou fondés uniquement sur des perspectives assez cognitivistes, un robot peut facilement remplacer tout ça. Donc tout le reste qu'il ne peut pas remplacer si on ne l'avait pas développé.
Oui,
évidemment, le soignant va pouvoir être facilement remplacé par des robots. Donc tout le champ relationnel, communicationnel, émotionnel, de reconnaissance, de relations justement intergroupes, et puis même dans la prise de décision, on voit de plus en plus l'évidence de la nécessité de relier les sciences affectives avec les sciences cognitives, et donc il y a beaucoup plus de finesse évidemment que uniquement des procédures evidence-based avec des protocoles. Mais si si on n'a pas développé toutes ces dimensions-là, il va être très facile aujourd'hui de remplacer évidemment progressivement des techniciens par des automates.
Oui, d'où la nécessité d'avoir, d'être bien armé avec en fait des armes qu'on ne peut pas remplacer et qui relèvent du champ de la psychologie sociale et de toutes ces choses-là qui échappent au contrôle. Hein, voilà. Donc en fait, il faut développer des forces parallèles, si je puis dire.
Et mieux reconnaître l'invisible qui est présent dans notre quotidien, dans nos actes, dans notre agir, dans notre activité, et qui fait l'âme des choses, pouvoir l'objectiver mieux, mais pas de façon évidemment quantifiable, mesurable, etc., mais en reconnaissant évidemment tout le champ de la subjectivité et de l'être dans sa plénitude.
Qui est irremplaçable.
Oui, parce qu'autrement, on participe, et nos systèmes de santé participent au mouvement global, bien sûr. On n'est pas que les victimes des orientations de la société, on est tous à participer évidemment à ces réductionnismes et à ces processus qui sont en train de nous restreindre, en tout cas de nous aliéner et certainement pas de nous émanciper.
Alors également, je vous demanderai quelques conseils de première urgence à donner à un futur pédagogue de la santé, en quelques mots. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Quel serait votre conseil ? Très spontanément.
Moi, je pense qu'il faut s'élargir au maximum d'une compréhension de la multitude des capacités de l'être humain et d'essayer de sortir d'un rôle uniquement centré sur des aspects un peu techniques, des dispositifs pédagogiques pour vraiment penser l'être humain dans son plein épanouissement et voir comment on peut mettre en œuvre cet épanouissement-là au cœur de chaque, dispositif et puis au cœur des dispositifs curriculaires eux-mêmes, parce qu'il y a un danger aussi que j'ai pu voir plus d'une fois et dans laquelle moi-même je suis d'ailleurs confrontée dans mes enseignements en faculté, c'est de ne pas... quand on est pédagogue de la santé, de pouvoir aussi participer à une réflexion critique sur ces curriculums pour ne pas laisser les enseignants qui souhaitent faire des changements pédagogiques parfois extrêmement pertinents porter à bout de bras et seuls des changements nécessaires en termes d'émancipation et d'épanouissement de tous, mais qui ne sont pas portés aussi par le niveau méso-institutionnel des curriculums.
Voilà, donc rester attentif à tout ce qui pourrait faire progresser tout le monde, en fait. Voilà,
autant au niveau individuel qu'au niveau du niveau de l'institution. Le pédagogue doit aussi pouvoir voir les contraintes limites de l'institution. Alors, bien sûr qu'il y a les contraintes limites au niveau environnemental plus large, mais de nouveau, on est acteur, et si on veut être actant dans l'action, on l'est, malgré qu'on fasse ou qu'on ne fasse rien, on est des actants des systèmes, et il faut pouvoir, le pédagogue, sortir du regard purement et uniquement du dispositif pour avoir un regard plus systémique, plus global, à la fois par rapport à toutes les capacités, la multitude des capacités d'une personne, mais aussi par rapport au niveau des curriculums, au niveau de l'environnement plus large dans lequel ce développement pédagogique vont se mettre en place.
En fait, ne pas vraiment s'enfermer dans un... Ne pas se fixer des limites qui pourraient boucher l'horizon, voilà.
Voilà, essayer d'avoir vraiment une perspective systémique de reliance, hein, donc vraiment, ça c'est pour moi les concepts fondamentaux, c'est de développer une pensée de reliance, une pensée complexe, une pensée systémique pour justement avoir cette vision globale.
Ce bel édifice, voilà.
Voilà, et même si c'est sur un petit endroit ou un plus large endroit, on peut toujours avoir cette façon-là de travailler.
En réseau, par exemple, voilà.
Et oui, notamment, en effet, ça, c'est, je pense, un des éléments fondamentaux, mais en ayant conscience, voilà, que si on met en place des choses en réseau, il y aura tout de suite des enjeux qui vont se mettre en place, et du coup, on retombe sur la discussion qu'on avait tout à l'heure.
Oui.
La question alors de pouvoir se dire, mais bon, voilà, s'il y a ces freins, c'est qu'il y a des mécanismes à l'œuvre, et là, on retombe dans le champ de la psychologie des émotions, de la psychologie sociale et intergroupe, etc. Et alors, aborder avec l'évidence et les savoirs et les connaissances de ce champ-là, ces problèmes-là, parce qu'autrement, on s'y reconfronte perpétuellement.
On tourne en rond, c'est ça.
Voilà, essayer d'être plus lucide sur les mécanismes à l'œuvre aussi, à ces niveaux-là, quoi.
Alors, vous avez publié évidemment beaucoup, beaucoup. Quelle lecture parmi vos publications récentes conseilleriez-vous à nos étudiants?
Oui, alors là, j'ai pas eu le temps de revoir un petit peu ce qui serait privilégié donc parmi mes propres publications.
Disons, vos publications récentes, quelles seraient les ouvrages vraiment pertinents, deux ou trois, pas plus.
Je pense toujours que l'article, même s'il était peut-être un petit peu plus ancien, sur les compétences émotionnelles dans la revue de pédagogie médicale, reste très pertinent, et encore plus aujourd'hui, vu maintenant l'évidence qui est amenée par le champ des neurosciences, etc.
Oui, oui, je partage votre avis.
Là, je pourrais insister là-dessus. Je suis en train de travailler par ailleurs, mais bon, il n'est pas encore publié, ce sera pour l'année prochaine, sur un guide pratique autour du champ des compétences émotionnelles et comment les intégrer dans des dispositifs pédagogiques, assez concrètement, avec des exemples.
Donc, sorti en 2019.
J'espère, voilà, autrement début 2020, mais voilà, mais en tout cas, il est en cours d'écriture. Et, mais autrement... Il y a certains chapitres dans l'ouvrage, le premier ouvrage, parce que le deuxième ouvrage sur l'ingénierie curriculaire, l'ingénierie vraiment des compétences, c'est plus pour les personnes qui veulent réfléchir à l'élaboration ou à réguler un curriculum par compétences. Par contre, dans le premier ouvrage, il y a peut-être certains chapitres bien ciblés, comme la question du leadership notamment.
Oui.
Qui me paraît intéressant ou... aussi la question de l'éthique qui est abordée, comment intégrer le champ de l'éthique dans les formations médicales.
Oui.
Alors il y a aussi maintenant, et ça va être publié, c'est en cours d'être édité, dans le dictionnaire de la responsabilité sociale. On a écrit avec Jean Joucan certaines entrées de ce dictionnaire et je pense que là il y a... choses qui peuvent être intéressantes. Il y a notamment la définition, évidemment, du concept de compétences professionnelles, mais aussi de compétences personnelles. Et puis, on a développé les concepts fondateurs pour nous de l'approche par compétences intégrées, sont repris là,
oui.
En lien notamment avec la perspective épistémologique, qui est celle, je vais peut-être dire un mot pour enfin, qui termine un peu l'entretien, mais qui ouvre le débat sur... Une prône une vraie rupture épistémologique fondamentale qui est de tendre plutôt vers des perspectives de type, je dirais, pragmatiste.
Oui, oui, c'est bien ce que j'ai compris, en fait, du pratico-pratique. Voilà, parce qu'il faut agir vite, il faut agir bien, il faut aller dans le bon sens.
Voilà, mais la rupture, là, se joue entre... l'objet d'enseignement et d'apprentissage aujourd'hui est centré sur le savoir. Et là, il y a pour ma part une erreur épistémologique fondamentale, puisque même élaborer du savoir nécessite une démarche pratique, une praxis, une élaboration qui, elle, nécessairement, le chercheur qui élabore du savoir, il est bien dans un agir pratique. Et donc, toute démarche de développement curriculaire dans le champ de la médecine, qui est une pratique accompagnée de techniques et de savoirs, mais qui est d'abord une pratique, devrait avoir comme objet d'enseignement et d'apprentissage la pratique, l'agir, l'activité même de l'agir situé en contexte. Et du coup, là, il y a vraiment à penser au niveau épistémologique quelles sont les orientations qui peuvent nous guider. Et pour ma part, il y a notamment la perspective de Dewey, donc le pragmatisme et également la perspective varélienne, donc Varella, tout ce qui touche à ce qu'on appelle l'inaction. Mmh. Il y a d'ailleurs un ouvrage chez De Book qui date et qui est intéressant, mais qui date déjà une petite dizaine d'années sur le concept d'inaction dans la formation, dans les curriculums. Donc là, il y a vraiment à penser le fait que on apprend, on développe nos connaissances dans l'activité même, dans l'agir, dans l'action, et d'où l'importance justement de se centrer sur...
Oui, mais en fait, on en revient avec des concepts du type Freinet, la pédagogie de Freinet, avec learning by doing,
et puis là, en effet, on voit bien à quel point c'est difficile d'évoluer vers de telles pédagogies, alors qu'elles sont documentées, notamment les pédagogies de Freinet et beaucoup d'autres pédagogies, comme étant extrêmement efficaces et efficientes. Mais je pense que le processus d'émancipation sous-jacent est conséquent aussi pour toutes sortes d'enjeux et de formes subversives.
Donc je comprends bien que ces orientations-là font partie de vos projets pour l'année prochaine et même au-delà. Est-ce que pour conclure cet entretien, vous auriez une anecdote positive à nous transmettre voilà. Quelque chose de spontané, voilà, quelque chose de positif, voilà, en rapport avec ce que vous avez vécu hier ou avant ou bien avant, un petit retour positif pour voilà.
Mais c'est peut-être pas hier ou avant, mais de façon plus globale, c'est que quelles que soient les difficultés de la pédagogie dans le sens de tout ce que ça veut dire, puisqu'on est dans des démarches par excellence de qualité, on est au cœur de la question de la qualité, je maintiens que c'est un domaine absolument passionnant, puisqu'il permet non seulement de développer des perspectives professionnelles, mais de se développer soi-même. On est très proche de perspectives psychologique et philosophique, et donc je pense que c'est un domaine qui reste passionnant malgré ses difficultés et en effet a toujours des très très grandes satisfactions pour moi personnellement. Alors c'est pas une anecdote, c'est plutôt un
ressenti global,
voilà. Et en tout cas très positif par rapport à la question même de la pédagogie.
Remercie pour cette quarantaine de minutes que vous m'avez accordé. Donc je vous souhaite encore beaucoup de bonnes surprises pour cette année 2019. Et ma foi, j'espère avoir le plaisir et l'honneur de vous rencontrer prochainement.
Absolument. Merci à vous en tout cas de m'avoir proposé cet entretien. Et on se verra en tout cas prochainement à Strasbourg, en tout cas au mois de mars. Donc merci beaucoup en tout cas.